Vous le savez, dans les derniers jours, on a parlé du projet de loi 2. On a rencontré des gens extrêmement intéressants qui sont venus nous parler de ce projet de loi 2. On en a parlé avec certains politiciens, d'autres fois avec des médecins. C'est encore une fois le cas ce matin. Je pense qu'il a fait 9 rounds de boxe hier, de ce que j'ai compris, là. Docteur Martin Savard qui est avec nous, qui est neurologue. Monsieur Savard, bon matin.
Bon matin.
Merci d'être là. Est-ce qui s'est passé avec vos yeux?
Si moi
je peux changer, alors tout le monde peut changer!
Hier, j'ai travaillé sur mon terrain, j'ai ramassé. Il passait pour des feuilles aujourd'hui chez nous, fait qu'il fallait que je ramasse toutes les résidus que je pouvais faire. Puis, probablement que je suis allergique à quelque chose à quelque part, fait que j'ai une face de boxeur un matin.
Ça a tombé des yeux.
Mais là, Martin, tu travailles non, ben pas à l'hôpital, Grim. T'avais le temps de ramasser tes feuilles hier.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe?
Ben,
tu es parti d'un médecin paresseux, toi, là?
Ben, probablement, parce que moi, j'ai travaillé 26 jours de suite, comme je l'explique sur mes réseaux sociaux. Ensuite de ça, samedi, ben j'avais une journée de congé, fait que je suis allé devant le Parlement de Québec. Puis hier, ben j'ai pu ramasser mes feuilles. Puis là, je passe sur une stretch de 19 jours consécutifs où j'ai travaillé. Fait que j'ai bien profité de mes deux journées et de ramasser mes fleurs.
Avez-vous des pauses des fois à l'hôpital? C'est ce que je me pose comme question, parce que quand vous avez des gardes de 24 heures, là, est-ce que vous pouvez aller vous coucher un peu à l'hôpital? Y a-t-il un dortoir de médecin, mettons?
J'ai déjà demandé à avoir un lit pour que je puisse dormir en cas de certaines situations problématiques. Là. Puis pour l'instant, c'est resté lettre morte. J'ai une collègue qui a un sac de couchage puis un lit de sol dans son bureau. Pour
dans
dormir
son bureau.
Quand on a besoin. Mais tu sais, moi, il faut comprendre, quand je fais 24 heures, on a une équipe de résidents. Généralement, je dors chez moi, mais on a des appels, on gère des affaires à distance, on fait de la télémédecine pour des AVC qui arrivent dans l'Est du Québec, on fait venir des patients. Fait que tu sais, c'est une dynamique où, généralement, je n'ai pas besoin de dormir à l'hôpital, mais il y a des situations où ce serait franchement bien que je puisse dormir à l'hôpital, en effet.
Parce que je me souviens de la naissance de mon premier Jeff, le médecin, ça faisait 15 minutes qu'il était debout, là.
Puis paf!
Il accouchait la mère de mon enfant. Je trouvais ça hallucinant. 15 minutes, là! Tu sais, toi, là, comment tu te sens quand ça fait 15 minutes que t'es levé?
Je suis pas prêt à faire un accouchement, tu fais sûr.
Encore un peu engourdi.
J'ai pas encore pris une gorgée de café, puis je me cherche.
Tu cherches la Keurig, là. Et où la Keurig? J'ai besoin de mon soluté.
Exactement.
Mais eux autres, ils procèdent aux accouchements. Non, un énorme respect pour votre travail à tous les médecins, à tous ceux qui travaillent en santé. Comment va le moral des troupes, là, depuis ce fameux projet de loi 2 qui est arrivé?
Ben, le moral est extrêmement mauvais, là. Je veux dire, si on compare... La dernière claque sur la gueule qu'on avait eue comme travers de la santé, ça a été la pandémie. Puis là, ben, on vit un peu une ambiance début de pandémie. Là. Les gens sont découragés, les gens... puis je trouvais, hier, j'écoutais, tout le monde en parle. Puis il y a une ORL qui a très bien parlé là-bas en disant, tu sais, c'est une profonde insulte à notre profession de penser qu'on va régler les problèmes en nous encadrant, parce qu'on n'est pas capable de s'encadrer nous autres-mêmes. Là. Je veux dire, mes patients, c'est mes patients. Je veux les aider, je veux faire tout mon possible pour qu'ils aillent mieux. Puis de penser le contraire de notre part, on a un professionnalisme, on a une éthique de travail, on a prêté serment, on a tout fait ça. On est profondément concernés par nos patients, puis de prétendre le contraire, ben c'est extrêmement triste. Puis ça rentre dans la logique du docteur bashing qui est assez spécial au Québec pour certaines personnes. Je pense pas que c'est une majorité de gens qui pensent de cette façon-là. C'est sûr, je l'ai effleuré la dernière fois lorsque j'étais avec vous autres. Si on se promène sur les réseaux sociaux, à un moment donné, il faut faire attention. Il y a un 5% là, très tapageur là, qui dit toutes sortes de choses puis qui s'en donne à cœur joie sur notre dos. Puis le travail dans notre tête, c'est de faire abstraction de toutes ces choses-là qui se sont dites là, pour éviter de faire un Mitch Marner de nous autres, pour vous qui aimez le sport et sacrer son camp à Vegas. Fait que, tu sais, il faut trouver une façon de faire la part des choses. Mais c'est sûr que le ton est décourageant. Puis on avait l'impression quand on rentrait dans la profession que on allait aider les gens puis qu'on allait être minimalement respecté. Le respect est parfois difficile à ressentir.
Il y a plein de choses qui m'agacent, que ce soit tout le temps votre salaire qui est mis de l'avant comme si vous le méritiez pas. Ça m'agace beaucoup, puis peut-être ça c'est une critique à l'égard du gouvernement. L'autre critique que je pourrais faire actuellement dans le débat, puis on a parlé avec Jeff et Max la semaine passée, c'est vraiment le fait qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un groupe qui représente les patients. Qui pourrait dire, attendez un peu, là, c'est beau de vous chicaner sur les heures de travail, la rémunération, patati et patata, Mais moi, là, en tant que payeur de taxes, y a-tu quelqu'un qui me représente dans vos discussions?
Oui, oui. Puis je m'excuse, le nom du groupe, là, qui est l'espèce de représentant des patients au Québec, malheureusement, le nom du groupe m'échappe présentement pour vous parler, mais...
On l'entend pas?
Ben, il s'est prononcé, mais je veux dire, c'est noyé dans la vague complète. Moi, je l'ai vu en entrevue et leur position est claire. Ils sont contre la loi 2.
Ils sont contre la loi 2?
Absolument.
Martin, on a Alex qui nous écrit. Vendredi, j'ai reçu un courriel de mon médecin de famille qui est début soixantaine. Ben, il prend sa retraite en février. Merci Legault et la loi 2 qui sont en cause de la retraite prématurée.
Début soixantaine?
Début soixantaine. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont quitter? Autant pour la retraite, et là, on parle beaucoup Ontario, Nouveau-Brunswick, aussi. Ouais. Doug Ford rappelle même les médecins.
Ben,
il se passe quoi là, à l'interne? Là.
Mais tu sais, moi, mon message aujourd'hui, évidemment, vous comprenez que quand je suis venu voir il y a 10 jours, je pouvais dire pas mal ce que je voulais. Je ne peux pas dire ce que je veux présentement parce que je pourrais commettre une infraction
en raison
de la loi 2. D'ailleurs, la loi 2, je l'aime bien parce que les haters, s'ils me disent sur les réseaux sociaux, je sais pas quel juron j'ai le droit de dire ici, mais mon mot te dit, médecin, bébé gâté, c'est ça, sac ton 15 aux États-Unis. Ben, cette personne-là, je suis heureux de lui apprendre qu'il va commettre une infraction à cause qu'il va m'inviter à m'en aller. Fait que ça, c'est le seul aspect positif de la loi 2. On nous protège de ça. Mais des gens qui vont partir... Moi, j'ai un collègue qui a appelé Doug Ford.
OK.
Il a parlé à Doug Ford.
Directement?
Oui, c'est directement. C'est pas des jokes, là. C'est quelqu'un qui travaille à le même hôpital que moi. Il a parlé. Puis on lui a dit, c'est parfait. Mon ministre de la Santé va te rappeler le lendemain. Puis il l'a rappelé. Puis ainsi va la vie. Puis je ne vais pas le jeter en dessous de l'autobus, là, mais j'ai envoyé un courriel vendredi matin à mon député. J'avais envie de parler à mon
provincial,
député.
Provincial, fédéral?
Mon député provincial. Un député de la CAQ, puis j'avais envie de lui parler, puis de pouvoir lui expliquer ma réalité. Quoi. Je ne suis pas sûr que ces choses-là se rendent à leurs oreilles. On nous invite à la discussion, on nous invite à parler. J'ai eu droit à un courriel qui disait « on prend une bonne note que vous nous avez contacté, patati patata, automatisé par une machine, puis je n'ai pas de nouvelles de mon député jusqu'à maintenant. »
Donc, ton député au Québec t'envoie un message automatique, puis le premier ministre de l'Ontario te parle directement. C'est quand même deux poids, deux mesures.
Oui, exact. Je veux dire, on peut être d'accord avec ce que
très
fait
Doug Ford.
Non, mais c'est exact. On peut être d'accord avec ce que fait Doug Ford ou pas d'accord, là, puis je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais je vis un clash.
T'as le premier ministre de l'Ontario qui répond lui-même au téléphone.
Ouais, mais le député n'est pas capable.
Et ça, c'est de l'intelligence artificielle qui dit « Bonjour, Doc Martin Savard, vous êtes neurologue. Juste vous dire qu'on prend acte de votre message, puis peut-être qu'on va vous rappeler un jour. »
T'as lancé l'intelligence artificielle. Je peux te dire quelque chose là-dessus?
Allez-y.
Oui.
J'ai vu plusieurs entrevues du ministre de la Santé dans lesquelles il nous sort toutes sortes de patentes. Puis, entre autres, il nous a parlé de l'intelligence artificielle, que les cliniques allaient avoir de l'intelligence artificielle pour que la personne qui reçoit les appels, puisse par la suite trier pour savoir est-ce que vous devez venir voir le médecin ou est-ce que vous devez aller dans une clinique au CLSC, patati patata. Exemple personnel. La semaine dernière, j'étais avec une de mes résidentes à l'étage, puis on se posait une question précise sur un médicament qu'on devait prescrire, puis on n'était pas certain de la dose. Il y a une intelligence artificielle très sérieuse qui est sortie aux États-Unis, ça s'appelle Open Evidence, qui est pour les docteurs, puis ça fait une revue de la littérature existante, puis ça nous sort un article, puis ça nous explique c'est quoi la bonne réponse. On a posé à 2-3 mots près la même question à l'intelligence artificielle. On se demandait si c'était 35 ou 70 mg qu'il fallait donner. J'ai eu 35, elle a eu 70. On a eu deux réponses différentes. Fait que, tu sais, la belle magie que l'intelligence artificielle va nous sauver puis va tout faire, je veux dire, quand on propose un médicament dans une étude, on étudie d'abord le médicament, quand on propose un médicament pour nos patients, puis on voit si le placebo fait aussi bien, puis peut-être, on regarde tout ça. Là, il y a une intelligence artificielle qui va venir trier ce qu'un patient va raconter au téléphone à où est-ce que je m'en vais dans la vie, est-ce que je m'en vais dans une clinique, est-ce que j'en vais à l'urgence, quoi que ce soit. Je veux dire, ça n'a pas été testé. Est-ce que ça va être la bonne réponse? Est-ce qu'il y a des gens qui vont rester chez eux parce que l'intelligence artificielle leur a dit « reste chez vous, tu n'as pas besoin de venir voir un docteur » et vice-versa? J'ai des gros doutes sur cette cette approche.
Oui, tu sais, juste à penser au, début quand on appelait quelque part, puis c'était une secrétaire ou quelqu'un d'autre qui répondait, c'était rassurant.
Ben
cette
oui.
personne-là nous envoyait à la bonne place. Là, maintenant, tu te perds dans un dédale de si vous voulez vous appeler pour ci, appuyez sur le 1. Si vous appuyez pour ça, appuyez sur le 2. T'as-tu déjà appelé au gouvernement fédéral?
Ben, non,
à un moment donné, tu te perds. Fait que l'intelligence artificielle, sur ce point-là, je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, l'intelligence artificielle, exemple, au niveau des radiologies, peut faire des miracles.
Ah oui, ça va aider des choses. Puis je suis pas contre l'intelligence artificielle, mais il faut juste la tester pour voir qu'elle est fiable avant de lancer. Ben, faites-vous-en pas, ça va être l'intelligence artificielle qui va vous dire où vous présenter. On n'est pas en train de parler de où est-ce que je devrais aller acheter mes cartes de hockey. On est en train de parler de est-ce que je dois aller voir un docteur ou pas.
Oui. On parle encore de votre rémunération. C'est samedi. Il y avait un article de quelqu'un qu'on aime beaucoup, Michel Gérard, qui est un journaliste qui s'intéresse beaucoup à l'économie. Puis il mentionne dans son article, dans son petit chapeau, les médecins vont subir des baisses de rémunération marquées à partir de la présente année financière 2025-2026. Et ça va empirer lors des deux années financières suivantes, soit 2025-2026, 2026-2027. Parce que le portefeuille va peut-être augmenter, mais vous allez avoir plus de médecins qui vont être en place. Donc, vous allez vous diviser cette recette-là. Donc, vous allez avoir encore plus une perte de salaire.
Exact. Mais tu sais, là, on est sur un terrain glissant, mais je savais qu'on allait parler d'argent un matin, puis je vais essayer de vous en parler. Tu sais, si on part historiquement, en 2019, il y a eu la création de l'IPAM, qui est l'Institut pour la pertinence des actes cliniques. Ça, c'était dans la foulée de certains scandales. On peut en parler longtemps, puis j'en parlais pas trop, des genres de primes jaquettes, ces affaires-là, où il y a eu une décision de réviser les actes médicaux. Puis il y a eu les médecins ont décidé de laisser 10 % de leur salaire pour que ce soit réinjecté dans le réseau, pour que le réseau aille mieux, parce qu'on trouvait,
à
juste raison, que ça allait mal.
Ouais.
Ben, si vous lisez la presse la semaine passée, vous allez vous rendre compte qu'avec la loi 2, ils ont réussi à couper à peu près 2 milliards là-dedans, qu'ils ont réussi à réinvestir par moment. Puis il y a un 450 millions que le gouvernement s'est approprié pour en disant, ben on discutera plus avec les médecins de ce 450 millions-là qui reste, qui n'est pas engagé. On va le gérer nous autres-mêmes. Fait que c'est particulier, là. Ça, c'est un montant qu'on a accepté de donner pour le réseau. Puis là, ben, il est disparu dans l'appareil gouvernemental. Ensuite de ça, on nous dit c'est bon, vos négociations, on vous baissait de 25 % si vous n'atteignez pas certains objectifs. Maintenant, mais c'est rendu 15 % C'est rendu 15 % moins un autre 5 % là, on se finit par se perdre dans des chiffres, là, on se rend compte, en effet, qu'on regarde que l'enveloppe financière, elle a été baissée de toute façon de 13 %.
Ouais.
Fait que notre 25 % est rendu un 15 plus 13, ce qui, dans ma tête à moi, fait 28 quand je calcule. Fait que je suis pas sûr que c'est un gros succès du point de vue négociation.
Ouais.
Puis le fameux supplément de consultation sur lequel notre ministre s'embourbe quand il essaye de l'expliquer, puis je vais vous dire pourquoi il s'embourbe, pour une spécialité de consultation comme la mienne. Moi, je suis un neurologue, fait que je fais un peu de technique, je lis des électroencéphalogrammes, j'ai plusieurs collègues qui ne font pas ça. Un spécialiste en sclérose en plaque, en démence, tout ça. Le pain puis le beurre, là, c'est la consultation. Puis là, on a aboli le supplément, ce qui revient à la moitié du prix qu'un patient vient de voir.
Okay. Quand c'est la première rencontre avec vous, ben comme ça prend plus de temps, vous aviez un supplément.
Oui, ben moi, c'est. Puis moi, le 50 % a bien du bon sens. Moi, honnêtement, dans mes cliniques, un suivi, je prévois à peu près 20 minutes, mais tu sais, je déborde si j'ai à déborder.
Oui.
Puis un nouveau patient, ben c'est 40 minutes que je prévois dans mes cliniques, parce que je dois lui demander ses antécédents, je dois apprendre à le connaître. Là. Il y a un paquet de questions, il y a des raisons de dossier.
C'est rassurant pour le patient, là, de savoir que le médecin, au premier rendez-vous, il fait le tour au grand complet. Là.
Clairement.
Il fait le topo.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, l'explication, j'en viens là, puis tu sais, ça fait deux... Je l'ai vu le redire en plus une deuxième fois en fin de semaine, où... il explique aux gens, ben prenez l'exemple des cardiologues. Si le cardiologue, il fait moins d'argent de ses consultations, c'est pas bien grave, il se rattrape en salle d'opération. J'aimerais réexpliquer à tout le monde qu'un cardiologue, ça n'opère pas. Un cardiologue, ça fait des consultations, ça fait tout ça, mais c'est le chirurgien cardiaque qui opère. Mais c'est là où le bris de confiance s'installe. Quand on voit que notre ministre, qui est là depuis 5 ans, là, qui est censé comprendre comment fonctionne le
système. Connaît pas cette particularité-là.
Ne connaît pas cette particularité-là. Je dis des affaires que les gens ont peut-être entendu ad nauseam, mais il y a l'histoire des radio-oncologues qui étaient inclus dans la loi où on leur demandait de lire leurs examens de radiologie dans 5 jours. Il n'y a pas un radio-oncologue au Québec qui lit un examen de radiologie, mais c'est écrit noir sur blanc dans la loi qui devait faire ça. C'est les radiologistes qui lisent. Les radio-oncologues, exact, ils donnent de la radiothérapie. Puis l'autre aberration qui est claire, la loi 2, le principe derrière la loi 2, c'était « c'est assez, on veut ramener nos étudiants sur les bancs d'école, puis on veut qu'ils recommencent, puis que les externes se remettent à travailler, à faire leurs études. Puis, en vérité, c'est que, l'ensuite de ça, ben, nos étudiants en médecine vont aller en cours pour avoir le droit de faire le droit de grève, et les 4 facultés de médecine ont voté majoritairement pour faire la grève. Puis là, le ministre en va minimiser cette situation-là en disant « Ah, ben c'est pas grave, j'ai fait la grève quand j'étais étudiant en médecine, puis je les comprends, puis tu sais, il est comme cool avec ça. » Mais le ministre ne sait pas qu'un étudiant en médecine à la faculté qui est assis sur en regarder des cours, c'est une affaire, mais que les externes qui sont dans les hôpitaux, qui sont ceux qu'ils voulaient protéger en supposément en faisant la loi 2, font partie des étudiants en médecine.
Donc, ils ne seront plus dans nos hôpitaux?
Bien, ils ont voté pour la grève. Là, pour l'instant, ils ne peuvent pas la faire à cause qu'ils craignent les espèces d'amendes baillons à 500 000 $ par jour pour une association qui déciderait là, de dire aux gens, puis les étudiants en médecine marchent sur des œufs dans ces situations-là. Mais comment on peut minimiser ça alors que c'était la raison pour laquelle tu as supposément fait la loi 2? C'est un non-sens, puis c'est une nouvelle incompréhension, malheureusement, de la réalité du terrain.
Doc Savard, vous êtes neurologue depuis plusieurs années, vous êtes bien établi à Québec, vous travaillez pour le système public, vous semblez être passionné de votre travail. Moi, honnêtement, j'aimerais être médecin, j'aimerais faire votre salaire, mais je n'échangerai pas d'horreur avec vous, jamais. Là. Ça pourrait jamais arriver, travailler 27, 28, 29 jours en ligne comme vous faites. Vous êtes une machine de guerre. Qu'est-ce qui fait en sorte, parce que moi, c'est ce à quoi je pense, c'est pas une recommandation, je ne vais pas me faire poursuivre par mon propre gouvernement, mais t'sais, avoir vos facultés, avoir votre expérience, j'irais peut-être un peu plus pour le privé ou je choisirais un horaire de travail qui est un peu plus respectable pour un être humain.
Ouais, ben,
qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'y allez pas?
Ben, moi, je crois encore à donner à mon prochain puis à être au devoir que j'ai. Le ministre aime ça de nous dire, ben, on fait confiance au devoir des médecins. Mais à un moment donné, je veux dire, c'est nous en mettre encore plus sur les épaules, là. Mais c'est sûr que le privé, ça pourrait être une option pour, puis il y a bien des gens qui l'avaient déjà pris d'avance. Mais tu sais, aller au privé, le privé au Québec est malheureusement organisé de façon à ce que, tu sais, si ça va mal à 2h du matin, entre samedi et dimanche,
ouais,
je me ramasserai pas, c'est pas le privé qui va me ramasser, là. Tu sais, aux États-Unis, ça se fait, ça, mais au Québec, ben, tu vas te ramasser dans le système public, puis moi, je veux aider mon monde, puis je veux...
Mais c'est une vocation que vous avez choisie.
Ben, je pense que oui, mais ouais, enfin, bref, je vous laisse en juger.
Parce que, tu sais, je pense que le réflexe de toute personne qui, à un moment donné, se fait écœurer par son gouvernement, c'est de dire, OK, le gouvernement, visiblement, veut pas de moi puis il me traite pas avec respect. Je vais aller dans une clinique privée. Est-ce que vous pouvez le faire demain matin, dire, OK, Monsieur Dubé, bye, puis moi, je m'en vais travailler pour des cliniques privées? Pourriez-vous le faire, techniquement?
Ben, ma compréhension, c'est que, présentement, je n'aurais pas le droit de le faire.
Pas le droit, parce que le gouvernement vous bloque.
Oui.
Mais le gouvernement ne peut pas vous bloquer à aller travailler en Ontario, ne peut pas vous bloquer, bien, à aller travailler aux États-Unis, mais il peut vous bloquer à travailler à l'intérieur du Québec parce,
exactement,
que vous désirez aller au privé. Bien, c'est weird, ça.
Bien, il pourrait me bloquer aussi d'aller à l'extérieur, mais tu sais, c'est des amendes théoriques de 4 à 20 000 $ par jour si je décide que je vais à l'extérieur. Mais tu sais, on nous dit on les appliquera pas, faites-vous-en, mm-hmm, pas, c'est correct. Mais
quand même,
t'as toujours bien pris la peine de l'écrire, okay, puis elle existe, la loi. Fait que c'est pas une situation de grande
confiance. Mais les amendes, c'est si vous revenez qu'on va appliquer les amendes. Parce que si vous quittez, on n'a pas le droit de vous donner des amendes parce que vous allez exercer aux États-Unis.
Ben,
ça serait un non-sens.
Ça serait le fun. Que, si ça s'applique en revenant, ça va inciter les gens à
rester
beaucoup
là-bas.
T'sais, honnêtement, là, c'est... Puis tu sais, le nombre de médecins, je veux dire, on compare avec... On n'a pas le luxe de se passer de bien du monde. Là. Les pays scandinaves, c'est les pays qui sont les plus admirés dans le monde pour leur qualité de vie, leur tissu social, puis comment ça fonctionne. Ben c'est quasiment du simple au double pour le nombre de médecins. Là. Fait que tu sais, avec la loi, peut-être que dans un an ou deux, on va arriver en élection pour va dire, vous voyez, vous avez un médecin de famille qui vous est attribué. mais vous ne réussirez pas à le voir parce qu'il y aura pas, il y aura toujours 24 heures dans une journée.
Est-ce que les étudiants, présentement, jouent l'avenir de la médecine, puis je m'explique, on les oblige pendant 5 ans maintenant à travailler pour le public parce qu'ils font des études ici au Québec, puis on dit les études coûtent pas cher, fait que vous nous devez 5 ans au public, et là, on les place dans une situation de loi spéciale 2 qui vient beaucoup les restreindre dans leur liberté. C'est-tu eux autres qui ont ce pouvoir-là entre les mains?
Bien, présentement, ils ont un certain pouvoir, en effet. On va attendre de voir s'ils peuvent faire la grève. J'ai pas le droit. Les médecins résidents se sont clairement fait dire que légalement, il n'y aurait pas le droit de faire de grève. Pour les étudiants en médecine, ils ont plus de souplesse, mais il faut attendre. C'est devant les tribunaux là, sur leur droit de grève présentement. Il faudra suivre l'actualité cette semaine là-dessus.
Docteur Martin Savard, neurologue, c'est toujours un plaisir de vous recevoir en studio. S'il y a quoi que ce soit qui se passe, vous pouvez rester en contact avec le chum Jeff. On va organiser ça.
Génial. Merci beaucoup.
Merci de vous faire entendre sur nos ondes. C'est très, très, très apprécié. De te savoir. Max,
tout ce qui se dirigeait vers les ponts direction nord, c'est au rouge, 40 est entre Duplessis, Henri IV au rouge, Capitale Ouest, Jamais entre Beau-Royal et Laurentienne, Robert Bourassa sud vers le boulevard Le Bourgneuf, Henri IV sud entre Sainte-Geneviève et Chauveau Ouest, quand tu t'en vas vers Shannon dans le coin de la base militaire et Laurentienne sud vers rue de la Faune, tout ça c'est Jamais.
418-971-1001, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, c'est par texto.
Marceau le matin. Marceau